RCF. Comme une planète, Sylvie Lafleur.
Le 9 juin, c'est la 10e élection des députés au Parlement européen. Les Français votent pour 81 députés sur les 720 au total. Et on peut encore s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 1er mai 2024. On va se demander comment l'Europe est présente pour la population de la métropole de Bordeaux. J'ai invité Céline Papin. Bonjour Céline Papin.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre bureau de Bordeaux Métropole. Vous êtes adjointe au maire de Bordeaux, chargée des coopérations territoriales européennes et internationales et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous êtes aussi vice-présidente de Bordeaux Métropole, en charge de l'équilibre des territoires, des relations internationales et dialogue citoyen. Et avec vous, nous allons mieux percevoir l'impact local de l'Union européenne.
Comme une planète, Sylvie Lafleur.
En préparant l'émission, je vous ai demandé de réfléchir à quelque chose qui pourrait permettre de comprendre votre engagement en politique dans le Parti des Verts.
Alors moi, je choisis un événement qui s'est déroulé. Alors j'étais certes encore jeune, c'est la catastrophe de Tchernobyl, mais quelques années plus tard, j'en ai vu quelques images et j'ai commencé à comprendre en fait en quoi l'activité humaine pouvait générer un certain nombre d'impacts sur l'environnement et sur une temporalité en plus extrêmement longue. Et ça a été vraiment cette question du nucléaire a été le fondement de mon engagement écologiste.
Comment est-ce que l'Union européenne intervient-elle dans les projets de la métropole ?
Elle intervient à plusieurs niveaux. Alors évidemment, en financement direct de projets. Ça peut être des projets d'infrastructure. On a des équipements qui existent sur notre territoire et qui ont été cofinancés avec une part non négligeable de financement européen. Je pense par exemple à la Cité du Vin.
Alors, comment la Cité du Vin, qui est un projet privé, a-t-elle pu être financée par l'Union européenne ?
Donc, c'est un projet privé, mais qui avait aussi des financements publics assez importants et qui donc un budget au global de 12 millions d'euros. Et sur ces 75 millions d'euros, 12 millions d'euros de financement européen. Donc ça, c'était en 2012.
Et alors, est-ce que vous avez un autre exemple d'un gros ou d'un moins gros projet financé également par l'Union européenne ?
Alors l'autre exemple que je peux peut-être vous donner, c'est la rénovation thermique de plusieurs bâtiments sur le quartier du Grand Parc, donc rénovation de logements sociaux. 2 millions d'euros de financement européen sur un budget global de 10 millions. Donc là, pour le coup, pour un impact direct pour la qualité de vie des habitants qui résident dans ces logements.
Comment est-ce que vous pourriez faire pour que les habitants de la métropole soient conscients de l'implication de l'Union européenne ?
Alors déjà, on a une obligation de communication sur ces financements européens, et donc on le fait, mais on essaye de le faire connaître encore davantage à travers, bien sûr, nos publications sur les différents projets, à travers nos communications sur nos moyens institutionnels, nos réseaux, et surtout en parler le plus possible, parce qu'en fait, la difficulté, c'est comme ce sont des cofinancements dans des montages beaucoup plus globaux, très souvent, les citoyens en fait, ignorent finalement que l'Union européenne a été un acteur clé dans le déroulé du projet. Donc plus on en parle, et je vous remercie vraiment de faire ce type d'émission, parce que je crois qu'on a besoin de sensibiliser davantage les citoyens sur le rôle de l'Union européenne pour financer ces projets sur nos territoires.
Vous intervenez dans les partenariats avec différentes villes européennes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, parce que outre les financements, il y a aussi tous les partenariats qu'on a avec plusieurs villes. Donc la ville de Bordeaux, elle est jumelée par exemple avec Munich, avec Bristol, avec Bilbao ou avec Cracovie. Et Riga également. Donc c'est des villes avec lesquelles on a des échanges de bonnes pratiques, ça c'est le premier point, mais ça peut être aussi faciliter les relations des acteurs de notre territoire, les universités par exemple, des échanges croisés d'étudiants, ça peut être aussi des échanges économiques, les entreprises du territoire qu'on accompagne vers de nouveaux marchés dans nos villes partenaires. Donc c'est vrai que c'est un aspect très important de nos relations européennes.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres projets, par exemple dans la thématique de la mobilité ?
Oui. Alors en fait, outre les financements de grands projets d'infrastructure, l'Union européenne est un partenaire pour des projets européens plus de long cours, j'ai envie de dire des politiques publiques. Donc pour les mobilités par exemple, on a pu être partenaire d'un grand projet dans un consortium de villes européennes qui s'appelle Handshake. Alors c'est un projet Comme ça, ça paraît très techno, mais en réalité, c'est partager entre différentes villes européennes ce qu'on fait au niveau du soutien aux politiques du vélo, et surtout partager les bonnes pratiques, les bonnes idées. Parce qu'en fait, aujourd'hui, très souvent, j'ai envie de dire réinventer la poudre, ça n'a pas forcément un intérêt fou, et on voit bien que d'autres villes sont plus avancées que nous, et inversement, sur certains sujets, on a fait des choses très intéressantes qu'on a envie de partager. Et donc l'Union européenne, elle nous soutient là-dedans. Elle nous permet de payer les mobilités, c'est très concret, mais de payer les mobilités de nos agents pour qu'ils aillent se former auprès de leurs collègues dans d'autres pays qui ont peut-être d'autres cultures, d'autres manières de faire. Elle peut permettre aussi de nous accompagner sur le financement d'expérimentations. On teste des choses.
Par exemple, qu'est-ce que vous avez testé?
Par exemple, sur les questions, alors plus énergie-climat peut-être, sur la question de l'énergie, sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments. On le sait, il y a un besoin de rénover beaucoup de logements. Les gens sont en demande de ça, mais ils ont besoin d'être accompagnés sur le montage des dossiers. Et donc là, en fait, on peut expérimenter des dispositifs d'accompagnement pour voir quel est l'outil qui fonctionne le mieux auprès des habitants pour leur permettre que ce soit le plus simple possible, parce que l'objectif, c'est vraiment que ce soit le plus simple et le plus efficace. Est-ce que c'est de donner une avance financière, par exemple? Est-ce que c'est de les accompagner à un montage bancaire? Il y a plein de... Est-ce que c'est plutôt une expertise de type technique pour aller diagnostiquer chez l'habitant directement le type d'isolation dont il a besoin?
Alors, est-ce que vous avez un exemple en tête de quelque chose que vous avez appris d'une autre ville ou d'un autre pays européen?
Alors, je pense que sur les mobilités, il est indéniable que l'expérience des Pays-Bas sur leur voie réservée cyclable, la manière dont ils les ont pensées, notamment les réseaux express vélo que nous on est en train de développer ici à Bordeaux, c'est une expérience qu'on est en train de mettre en œuvre. On a des premiers réseaux qui ont été inaugurés. Ça, c'est clairement issu d'échanges de pratiques avec nos amis néerlandais notamment. Oui, alors l'Union européenne, donc il y a le financement des projets, le financement des politiques publiques, mais aussi ça nous permet de financer des postes, clairement des chargés de mission au sein de nos services, de nos collectivités, qui peuvent travailler sur des sujets nouveaux pour nous, collectivités, des sujets de préoccupation, on va dire, en phase avec l'air du temps, mais sur lesquels on n'avait peut-être pas travaillé depuis... Par exemple, l'agriculture urbaine. Toute la question de ce qu'on appelle la gouvernance alimentaire. Alors, c'est un peu techno comme ça, mais en fait, c'est comment on arrive à développer des circuits courts. Comment on fait en sorte qu'au niveau de Bordeaux Métropole, eh bien, on permette au territoire de pouvoir soutenir les agriculteurs des environs.
Ceux qui veulent s'installer.
Inciter à l'installation et puis surtout leur offrir des débouchés. Et donc comment on structure tout ça, cette filière? Eh bien ça, ce sont des métiers, on va dire, un peu nouveaux, pour lesquels on n'a pas forcément des compétences préexistantes dans nos collectivités, parce que c'est des nouvelles politiques publiques. Eh bien là, on a l'Union européenne qui peut, si on obtient le financement, eh bien venir financer plusieurs postes de chargés de mission, donc des contrats sur 3 ans ou 5 ans pour travailler au sein de nos services sur ces questions.
Et alors, par exemple, là vous avez parlé de vos services, mais localement, est-ce que vous avez un exemple d'agriculteur qui s'est installé quelque part sur la métropole?
Alors par exemple, oui, on a le cas à Mérignac où il y a eu un foncier qui a pu être mis à disposition d'un maraîcher et d'un éleveur de volailles pour effectivement pouvoir réinstaller de l'exploitation agricole sur le territoire de la métropole. C'est un des grands objectifs au niveau métropolitain d'essayer d'accompagner la réinstallation et surtout aussi de sécuriser, on va dire, la succession aussi des agriculteurs. On le sait, c'est un des gros enjeux. Après, c'est vrai qu'au sein de la métropole, on sait qu'on n'atteindra pas l'autonomie alimentaire juste sur notre territoire, parce qu'on n'a pas la surface, bien sûr, suffisante pour produire, pour nourrir tous nos métropolitains. Donc on a besoin de travailler avec les autres territoires, et c'est aussi un des axes forts de notre politique, c'est de travailler les coopérations avec les autres territoires.
Et alors sécuriser les débouchés des agriculteurs, c'est aussi qu'ils trouvent des lieux pour vendre leurs produits.
Tout à fait. Donc c'est développer les marchés en plein air, c'est accompagner l'évolution du marché d'intérêt national, le MIN, qui se situe à Euro-Atlantique, pour qu'il intègre toujours plus de produits qui proviennent, on va dire, de ressources plus locales. C'est aussi accompagner nos cuisines centrales, cantines scolaires, donc pour qu'elles puissent intégrer toujours davantage de produits locaux et de qualité bio si possible. On peut évoquer aussi peut-être un autre élément, parce que je me suis centrée beaucoup sur les collectivités, mais l'Europe, elle est aussi accompagnante de projets de nombreux acteurs du territoire. Les acteurs culturels, des scènes comme le Rocher de Palmer par exemple, ont recours à des financements européens pour venir les accompagner sur des projets là aussi de partage d'expertise ou des projets de résidence d'artistes par exemple. C'est un élément qui n'est pas toujours connu, mais qui est essentiel pour des acteurs pour qui les budgets, on le sait, c'est pas toujours évident à boucler. Donc l'Union européenne est un acteur important pour ces structures.
Alors en matière de climat, comment l'Union européenne peut-elle intervenir ?
Alors l'Union européenne a fixé un cap assez ambitieux de neutralité climatique à l'horizon 2030 et a sollicité les villes pour qu'elles puissent présenter des projets innovants pour atteindre justement cette neutralité. Donc nous avons candidaté, nous avons été retenus dans les 100 villes climatiquement neutres et nous avons notamment comme projet de mettre en place une coopérative carbone. Donc on est dans ce projet-là avec La Rochelle, avec d'autres villes françaises. L'idée c'est de venir contribuer à une coopérative, à un fonds en quelque sorte qui mutualise les émissions carbone, les impacts négatifs en fait des émissions carbone pour venir financer d'autres projets qui eux seraient positifs au niveau carbone. Donc concrètement, vous avez un projet qui, on le sait, aura un impact carbone peut-être un peu négatif, va venir un peu plomber notre bilan en quelque sorte. Eh bien, il va générer du numéraire, si vous voulez, qui sera réinvesti dans un projet, par exemple, de renaturation, dans un projet de préservation d'un espace naturel ou agricole. Et donc, c'est une démarche assez innovante parce que ça permet en fait d'avoir finalement du gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des activités humaines qui continueront à émettre du carbone parce que ça va être difficile de l'empêcher totalement, mais elles peuvent avoir un effet vertueux en permettant de sauvegarder sur d'autres territoires et notamment les territoires ruraux qui ont un gros enjeu et sont vraiment absolument nécessaires pour que les villes puissent continuer à se nourrir, on en parlait. Donc voilà, ça peut être un levier intéressant. Donc c'est une expérimentation dans laquelle on est engagé avec d'autres villes françaises.
Alors est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis de renaturation peut-être ?
Alors pour l'instant, il n'y a pas de projet financé si vous voulez. On a identifié des types de projets qui pourraient venir s'inscrire dans cette dynamique-là. Mais concrètement, oui, ça peut être par exemple un site naturel dégradé parce que pollué ou parce que une activité humaine qui a dégradé le site, eh bien, il y a besoin de financement pour la dépollution, il y a besoin peut-être de protection de cet espace-là, donc peut-être de le déclarer inconstructible, donc forcément sa valeur aussi va chuter. Donc ça peut être aussi une indemnisation de ce type-là. C'est ce type de démarche.
Si vous aviez un message aux futurs électeurs du 9 juin, quel serait-il ?
Mais que l'Europe, elle est bien plus proche d'eux qu'ils ne le pensent. L'Europe, elle est très présente sur le territoire. Elle finance des projets très concrets, des bâtiments qu'on croise finalement tous les jours. Mais aussi, et surtout, je crois, l'Europe, c'est surtout un socle de valeurs et de droits qui sont véritablement garantis par cette construction européenne. Je crois que c'est ça peut-être le plus important. Aujourd'hui, si on vit dans cet espace européen avec les droits, dont on bénéficie, les hommes, les femmes, c'est bien parce que cette Union européenne nous a permis de les garantir. Je pense par exemple à l'espace numérique. Le numérique, la protection des données, on a la chance d'être dans un continent, moi qui ai ce portefeuille des relations internationales, donc je me suis amené à me déplacer dans d'autres continents, je peux vous assurer que sur le continent européen, on a véritablement un cadre juridique qui nous protège à bien des égards de certains travers en termes de protection des données notamment.
Comme une planète, aujourd'hui je m'y mets.
C'est le moment de vous demander un exemple d'éco-geste, un truc facile que nos auditeurs pourraient mettre en œuvre et un truc qui rend heureux également. Alors qu'est-ce que vous nous proposez ?
Alors moi, l'éco-geste que j'ai adopté depuis quelques années maintenant, c'est l'utilisation de lingettes lavables, démaquillantes, mais aussi pour la cuisine, les types essuie-tout. Je suis passée au total lavable et je dois dire que c'est une fois qu'on s'y est mis, en fait, on ne reviendrait plus du tout en arrière.
Céline Papin, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir expliqué comment, grâce à votre engagement politique, vous contribuez à la préservation de notre maison commune. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de rcf.fr et merci à Baptiste Vigolo pour l'habillage musical de cette émission.